Chapitre 105. DJ s'assied lourdement dans un des fauteuils du hall et repose sa nuque contre l'appui-tête. La pluie tonne contre les fenêtres et le toit. Sur la table devant lui sont posés 3 des 5 fusils de chasse. Son cœur bat beaucoup trop vite. Un tremblement électrique agite son corps et sa gorge est contractée comme si quelqu'un lui serrait le cou. Chaque battement de cœur affolé fait remonter à la surface les déferlements profonds de la narcolepsie. Il a détruit tous les téléphones et le routeur. Il a fait en sorte que les ordinateurs de l'hôtel ne s'allument plus. Il essaie de penser en termes de stratégie, de se demander s'il y a autre chose à préparer, mais chaque fois, ses pensées sont éparpillées par d'étranges fantasmes. DJ avait eu l'intention de les abattre tous à l'intérieur de l'enclos, mais il n'a eu le temps d'en tuer qu'un seul à cause de la pluie soudaine. Se tenant devant le profond ravin, il avait vu l'orage fondre sur la vallée. Pendant 19 minutes, Kent Wrangel l'avait supplié peut-être 100 fois de l'épargner et avait juré presque autant de fois qu'il était innocent. DJ ne lui avait pas infligé de blessures spécialement graves. Il avait juste plongé le couteau de chasse dans son ventre au-dessus du pubis. Puis il avait retenu son corps tremblant au bord du précipice. Il l'avait maintenu par le couteau pendant qu'il lui expliquait tranquillement pourquoi ceci arrivait. Kent avait respiré par à-coups tandis que le sang remplissait sa cavité abdominale et commençait à couler sur ses jambes. DJ avait tourné le tranchant vers le haut, et dès que Kent fatiguait et faisait mine de s'affaisser, le couteau se frayait un chemin plus haut dans ses entrailles. Vers la fin, Kent souffrait le martyre. Plusieurs fois ses genoux avaient failli céder sous son poids, et le couteau avait glissé de travers vers ses côtes. C'est maintenant que la ficelle du cerf-volant se rompt, avait déclaré DJ en retirant le couteau. Il avait croisé le regard de Kent et en posant ses 2 mains sur sa poitrine, l'avait poussé dans le vide. DJ s'essuie la bouche, jette un regard vers le couloir qui mène aux chambres, contemple la table devant lui et commence à sortir les cartouches des fusils. Il ouvre la valise cabine à ses pieds et glisse les munitions dans la poche à côté des sous-vêtements. Il est temps d'en finir. D'abord Lawrence, ou à la rigueur James, et en tout dernier, Rex. Il aura peut-être le temps de tuer l'un des deux avant que l'enfer se déclenche, avant que les cris et la fuite précipitée dans les couloirs commencent. Mais la peur n'a jamais sauvé les lapins. Il sait que la panique obéit à des schémas très simples. Ses mains tremblent légèrement quand il monte le silencieux sur son pistolet, introduit un chargeur dans la poignée, enclenche la sûreté et remet l'arme dans le sac à côté de la hache à manche court. S'ils ne reviennent pas dans le hall, il faudra qu'ils se rendent dans leur chambre. Il sort sa dague SOCP noire, essuie la graisse de la lame mince et vérifie le tranchant. Sa mère est tombée enceinte suite au viol, mais ce n'est probablement qu'après l'accouchement que la psychose s'est installée. Elle n'avait que 19 ans. Elle a dû se sentir terriblement seule, terrorisée. DJ ne se rappelle pas sa toute petite enfance, mais il a compris qu'elle l'avait mis au monde toute seule et qu'elle l'avait ensuite dissimulé à son entourage. Elle l'avait caché dans l'étable. Dans son premier souvenir, il est couché sous une couverture, il a froid, et il mange des haricots verts directement dans une boîte de conserve. Il n'a aucune idée de l'âge qu'il pouvait avoir. Durant son enfance, le psychisme chaotique de sa mère faisait partie de sa vie, de sa perception de la réalité. Ses grands-parents ne s'étaient installés de façon permanente aux États-Unis qu'au terme de la longue mission de Lyndon White Holland comme ambassadeur en Suède. DJ avait presque 9 ans quand son grand-père l'avait trouvé dans l'étable. Il parlait un mélange de suédois et d'anglais et n'avait pas réellement compris qu'il était un être humain. Il lui avait fallu un certain temps pour s'adapter à la nouvelle situation. Sa mère était soignée à domicile. Elle prenait beaucoup de médicaments et était alitée la plupart du temps, les rideaux fermés. Parfois elle avait peur et criait, parfois elle le frappait parce qu'il avait laissé la porte ouverte. Parfois il lui parlait des lapins qu'il avait tués dans la journée. Parfois, ils restaient assis tous les deux par terre derrière le lit et chantaient la comptine de Grace jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Un an plus tard, il lui enregistra la comptine sur une cassette qu'elle pouvait écouter quand elle se sentait mal. Elle refusait de lui révéler qui était son père. Mais un jour, alors qu'il avait 13 ans, les médecins avaient modifié son traitement médical et elle lui avait parlé de Rex. Ce fut la seule fois, durant toute son enfance. Il se souvient encore exactement de ces quelques phrases. Il s'était accroché à chaque mot et ce qu'elle avait dit nourrissait en lui des espoirs fous. Il apprit qu'ils avaient été amoureux et s'étaient rencontrés secrètement, comme Roméo et Juliette, avant qu'elle retourne à Chicago. TJ ne comprenait pas pourquoi Rex n'était pas venu avec elle. Elle avait répondu qu'il ne voulait pas d'enfant et qu'elle lui avait promis de ne pas tomber enceinte. Au début, TJ avait cru à cette histoire avant de se demander si elle ne se cachait pas à Chicago parce qu'elle avait honte de son apparence physique après l'accident, qu'elle ne voulait pas que Rex la voie. Il ne sait toujours pas d'où lui est venue l'idée qu'elle avait été renversée par un camion, puisqu'il ne se rappelle pas qu'elle ait jamais raconté ça. Quand il avait 14 ans, sa mère avait vu une photo de Rex dans Vogue qui publiait un reportage sur de nouveaux cuisiniers à Paris. Elle était aussitôt allée dans l'étable pour essayer de se pendre, mais son père avait réussi à dresser une échelle contre la poutre et à couper la corde in extremis. Les grands-parents de TJ la firent interner dans un établissement psychiatrique à Bloomington, le Broman Medical Center, et TJ fut envoyé à la Missouri Military Academy, une école militaire qui acceptait de très jeunes garçons. TJ glisse la dague sous la nappe en entendant quelqu'un arriver dans le couloir. Du pied, il referme le couvercle de la valise cabine, se cale de nouveau dans le fauteuil et se demande lequel des hommes le destin a débusqué. Il entend un crépitement dans sa tête et visualise sa mère en train de se blottir par terre dans le box, se boucher les oreilles et gémir de terreur quand un des lapins dont il a brisé la nuque tressaute et se remet à courir. TJ se rappelle qu'il l'avait rattrapé en le coinçant sous un seau en plastique vert. Il avait glissé la main dedans pour le saisir, puis l'avait cloué au mur. Sa mère avait tremblé de tout son corps, avait vomi de terreur, et il lui avait hurlé de ne pas faire entrer les lapins.